Alors, revenons sur le rapport déposé hier, un rapport accablant de la protectrice du citoyen sur la maltraitance dans les centres de soins de longue durée.
C'est la continuation de constats du bureau de la protectrice du citoyen. Madame Saint-Germain, avant elle, avait le même genre de constat sur le même genre de services. Okay? On va dire les services aux plus vulnérables. Ce qu'elle avait noté, Madame Saint-Germain, par exemple, sur les services de soins à domicile, c'est que la tarte de soins ne grossissait pas. On faisait juste rétrécir les pointes pour que tout le monde ait un petit peu de service, mais jamais assez de service. Et ce qu'on voit dans le rapport de Mme Rinfret sur les CHSLD, c'est à peu près le même genre d'approche du système. C'est-à-dire, on va donner le strict minimum, on va mettre la couverte par-dessus les problèmes et on va espérer qu'il n'y a pas grand monde qui va remarquer. Et là, la protectrice, qui est une institution, disons-le, essentielle, ben le remarque, le dit. Moi, je me rappelle du ministre Barrette dans les derniers kilomètres du mandat quand il y avait certains cas, je me rappelle à Sainte-Dorothée, à Laval, il y avait un problème où justement des problèmes de bains, etc. Et le ministre nous disait que non, c'est une exagération, on ne comprenait pas, etc. Ben, on comprend très bien. On comprend que quand tu es dans un CHSLD, tu risques d'être maltraité parce que c'est ça le mot qui est utilisé. Puis ma crainte à partir d'ici, c'est la même crainte que j'ai depuis des années, c'est on devient anesthésié. Hey, la protectrice du citoyen nous dit qu'il y a de la maltraitance dans des centres qui sont administrés par l'État. On est habitué. On va passer à un autre scandale, on va passer le week-end, puis lundi prochain, on va parler de quelque chose d'autre.
45% des plaintes qu'elle a reçues à ce sujet-là sont fondées. C'est majeur. C'est-à-dire que la moitié des plaintes qui sont adressées au protecteur du citoyen, qui est le recours ultime, là, parce que tu peux te plaindre auprès des gens qui gèrent l'endroit, tu peux te plaindre à des commissaires, à différents commissaires, là, mais ultimement, la protection du citoyen, c'est le recours ultime. Alors, quand 45% de ces plaintes-là sont fondées, pour ce qui est des CHSLD, la situation est évidente. Il y a vraiment de la maltraitance d'une façon suffisamment répandue pour que 99% des recommandations de cette protectrice-là sont appliquées. Ça veut dire qu'ils ont vraiment mis le doigt sur ce qui faisait défaut. Ce qui fait défaut essentiellement, c'est une absence de personnes. On manque de personnel. Et donc, le ratio pour des gens qui s'occupent des personnes âgées est insuffisant et s'ensuit tout ce qu'on a décrit. C'est-à-dire, tu laisses des gens sans les laver, sans les raser, sans s'occuper de la coiffure, des gens qui restent jusqu'à 36 heures dans leur lit. C'est ça, la maltraitance. La qualité de la bouffe, la qualité des services dans leur ensemble est inadéquate. Ça, pour les CHSLD. Pour le soutien à domicile, c'est plus subtil parce que les gens reçoivent... Il y a moins de gens. Les critères augmentent pour recevoir du soutien à domicile. Et quand on reçoit, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins d'heures, moins d'argent et moins de personnes qui reçoivent ces soins-là. C'est ce que tu appelais la pointe de tarte. En situation dramatique. Puis là, tu lis ça un vendredi matin, c'est désespérant. Puis moi, je me sens très, très concerné parce que je vieillis, puis je vois bien que toute la génération, tous mes amis, mes proches, tout le monde vieillit. Puis avec les conséquences du vieillissement, des fois, t'as un accident, tu peux plus te déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour une partie de cette génération dont je suis des baby-boomers, il y a des attitudes qui sont « j'ai les moyens de payer, puis je vais me payer des soins personnels dans des endroits qui sont en dehors du circuit, et on peut s'offrir ces services-là ». Il y en a d'autres, et de plus en plus, qui tendent à s'organiser ensemble. Comment on va faire pour partager, par exemple, un même espace, avoir des logements qui sont proches, ne plus être isolé et pouvoir se payer des soins en petite collectivité. C'est le principe de la commune, là, qu'on a connu à l'époque de la jeunesse. Puis, il y en a aussi un bon nombre, et là, je blague pas, qui accumulent des pilules dangereuses en se disant, moi, éventuellement, là, ma solution, ça va être de disparaître, soit par... je vais disparaître. Et ça, là, quand on est rendu dans ce genre de situation-là, mais tout ce monde-là qui adopte d'autres solutions, c'est parce que soit ils ont des moyens financiers ou ils ont des moyens organisationnels ou ils se sont créés une communauté.
Mais ça peut pas être... Ça peut
mais
pas
c'est
être
pas
le
applicable
plan.
À tout le monde.
Ça peut pas être le plan social de soins aux personnes âgées.
Exactement. C'est là où je voulais en venir.
Les gens que tu décris là, qui peuvent se mettre ensemble pour acheter les services d'une infirmière, par exemple, ou habiter ensemble, etc., c'est beau. Mais dès que t'en as un qui va se fracturer à hanche, ben, fini, excuse-moi, là, mais c'est, tu rentres dans le réseau avec tous les affres qui viennent avec ça.
Oui.
La conversation qu'il faut avoir entre Québécois aussi, je pense, puis on n'aime pas ça, c'est un angle mort, c'est à force de baisser, à force de promettre de toujours baisser les taxes, de toujours baisser les impôts, de toujours répéter que c'est bien épouvantable le fardeau fiscal, tu peux pas vivre dans la pensée magique que tu vas baisser le fardeau fiscal constamment puis toujours avoir le même niveau de service. À un moment donné, il faut que tu payes pour des services et quand tu n'es pas dans cette situation-là, des gens vulnérables, des gens poqués, des gens vieux qui sont pognés dans un CHSLD, tu ne vois pas cette réalité-là. Et moi, ce qui m'interpelle ici, c'est que les CHSLD dans cet écosystème de soins-là, là, c'est vu comme un Eldorado. Moi, j'ai fait des reportages sur les ressources intermédiaires. Les ressources intermédiaires, c'est comme des petits CHSLD qui sont administrés par des privés. Des fois, c'est un bungalow. Des fois, c'est plus gros que ça. Mais c'est pas des employés du public, OK? Mais les employés qui travaillent en ressources intermédiaires, là, ils veulent bien souvent aller en CHSLD parce qu'ils vont être bien mieux payés, parce que leurs conditions de travail vont être meilleures. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que cet Eldorado-là, c'est pas assez payé. Il y a pas assez de staff. Les gens sont démotivés. Imagine en dessous. Imagine dans les ressources intermédiaires. Imagine dans les autres parties de l'écosystème de soins aux personnes âgées, aux personnes poquées. Quand la protectrice du citoyen se met le nez là-dedans, on va constater le même genre d'affaires.
L'autre problème aussi, c'est ça, elle le dit, la protectrice, c'est les CI 3S, les CIU 3S, CIUS. Les CIUS, puis les 6.
Oui, on perd les 6 puis les CIUS.
Ben oui, c'est simple, les 6, les CIUS. Hein? Maudits acronymes.
Bon, les CR3S, c'est 20 ans que c'est fini, ça.
Non, mais les CI3S, ça existe.
Oui, c'est les 6.
C'est les 6. Puis les CIUS aussi. En tout cas, ces organes.
Les patentes qui gèrent les CLSC et autres.
Ne sont pas, dans bien des cas, appliquent pas vraiment. Tu sais, il y a comme une. Ils ferment un peu les yeux en sachant que les soins ne sont pas appropriés. Mais se disant, là, ça nous prendrait plus d'argent, ça nous prendrait plus de monde. On va faire comme si on va tolérer que ça soit pas parfait.
Mais le jour où tu décides de ne pas investir en santé au même niveau que les dépenses l'exigent. Autrement dit, ils n'ont pas coupé dans la santé. Ils n'ont pas augmenté assez vite.
C'est ça.
Alors, toi, tu es le gestionnaire du 6. Mm. Okay? Là, tu es obligé de faire des choix.
Exact.
Alors, quand je vais passer un mémo qui explique qu'on n'a pas de personnel, donc... sauter le bain, ou bref, vous allez vous arranger, c'est pas qu'on n'est pas capable d'embaucher, c'est qu'on n'a pas le fric pour le faire souvent. Et ça, c'est la gestion qui priorise des trucs. Ouais. Tant que ça pète pas aux frettes sur la place publique, là, ben on est correct.
Le système...
Souviens-toi de l'infirmière, là,
ben oui.
Qui a amené justement le ministre à avoir plus de compassion à l'endroit des infirmières, à développer le programme, l'expérience pilote des prorata. C'est elle là, qui a mis le feu aux poudres avec une vidéo.
Tu ouais. M'enlèves les mots de la bouche. Puis pour situer les gens, c'est cette jeune femme infirmière en estrie.
Oui, oui.
Ben écoute, elle avait cheveux roses. Ça frappait l'imaginaire. Ouais,
ouais.
Et là, elle parle à la caméra, sa caméra de téléphone, et elle pleure. Puis tu vois que, écoute, si c'est pas des vraies larmes, c'est une très bonne comédienne. Et elle explique à quel point elle est épuisée, à quel point sa charge de travail est épouvantable, à rendre les détails. Mais là, tu touches à quelque chose d'important. Le système fonctionne à la crise médiatique. Quand c'est pas dans les médias, quand il n'y a pas quelqu'un qui dit sa douleur, que ce soit un proche, que ce soit une personne qui a besoin de soins, que ce soit des employés, le système trouve que la job est faite. Il y a une crise, bien là, tu le dis, Paul, il y a un projet pilote, le ministre fait une sortie, etc. Ça va être la même chose. C'est pour ça que je dis que lundi prochain, on va être passé un autre appel. Moi, je pense qu'on est anesthésié collectivement au sort des personnes âgées. Quand la jeune fille... La jeune infirmière a fait sa sortie. Il y avait quelque chose qui venait tous nous chercher. Puis, je m'excuse, mais les vieux à CHSLD ne peuvent pas faire une vidéo puis brailler. Ben, qui va le faire pour eux?
Mais tu sais, dans le discours de François Legault, il parlait d'humaniser. Puis, il y a une notion qu'on a de la difficulté à mettre en œuvre, c'est une empathie. Parce que c'est vrai en éducation, c'est vrai pour les personnes âgées, c'est vrai partout où il y a des soins. Comment on fait pour... comme gouvernement, avec les ressources qu'on a, pour transformer ça en une empathie active. Savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de quelqu'un d'autre. Cette notion-là.
La rigueur avec le cœur.
Ah, c'est bien dit, ça.
C'est assez beau.
C'est pas pire. Une carrière politique, c'est assez beau.
Non, je pense pas. On va aller en pause. Et après ça, on va parler du G20 qui s'ouvre à Buenos Aires. Et on sait que le Canada, le Mexique, les États-Unis ont signé l'accord de libre-échange. Et comme on le notait justement, M. Trudeau passait du français à l'anglais. Alors, Donald elle avait son oreillette, puis il enlevait, puis
il
enlevait. Je pense qu'il l'a gossé. L'autoroute 40.